Bonsoir, province de l'Ituri. Plus de 3000 assaillants lourdement armés de la Codeco se sont déjà regroupés dans plusieurs localités en territoire de Djougou pour leur démobilisation. C'est les résultats de la campagne de sensibilisation menée depuis un mois par une délégation composée des anciens seigneurs des guerres de cette province, dépêchée par le chef de l'État. Cependant, les moyens ne sont pas rendus disponibles pour concrétiser cette démobilisation, déplore la société civile de Djougou, ce qui pousse ces miliciens à voler des vaches et à s'attaquer aux civils pour leur survie. Comment analyser cette situation? Que peut faire le gouvernement pour accélérer le programme de démobilisation des groupes armés? Nous en parlons ce soir avec Maître Lando Mafuta, conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Il est le point focal du MNS en Ituri. Maître Lando, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Pichu Mbodina Iribi, porte-parole de la délégation des anciens seigneurs des guerres de l'Ituri, envoyé par le chef de l'État pour sensibiliser les miliciens de la Codeco. Monsieur Iribi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Monsieur Bitaki, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les co-débatteurs.
Merci de nous suivre à Bounia dans la province de l'Ituri sur la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus de 3000 miliciens de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC dit Codeco, sont prêts à déposer les armes pour répondre à l'appel du président de la République. Ce dernier a envoyé il y a environ un mois une délégation composée d'anciens chefs miliciens de cette province pour sensibiliser cette milice à adhérer au processus de paix. Selon le chargé des communications de cette délégation, ces miliciens sont déjà regroupés dans plusieurs entités en attendant le programme de démobilisation. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
Ces combattants de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais URDPC du Codeco manifestent leur volonté de cesser immédiatement les hostilités. Lourdement armés, ils ont quitté la brousse pour s'installer dans les localités Lodjo, Debou et Tanguy, dans les secteurs de Walendupiti en territoire de Djougou. Pichu Iribi, chargé des communications de cette délégation, indique que ces miliciens ont répondu à l'appel du chef de l'État. Ils déploient alors cependant les manques d'infrastructures d'accueil pour leur hébergement. Il ajoute qu'il se pose également les problèmes des prises en charge alimentaires de ces miliciens. Pichu Iribi demande aux fils et filles de l'Ituri de soutenir ces processus pour la restauration d'une paix durable dans cette province. De leur côté, certains habitants craignent que ces hommes armés ne se rabattent sur eux pour leur survie en se livrant au pillage et extorsion de leurs biens. Pour sa part, la société civile de Djougou salue ces avancées qui donnent l'espoir de la fin des hostilités. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci Martial Kizabiamungu depuis Bounia. Pichu Bondina Iribi, vous êtes porte-parole de la délégation des anciens seigneurs des guerres de l'Ituri envoyée par le chef de l'État justement pour aller sensibiliser les miliciens de la Codeco. Vous indiquez que ces miliciens ont répondu à l'appel du chef de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à déposer les armes. Vous déplorez cependant le manque d'infrastructures d'accueil pour leur hébergement.
Exactement. Vous faites la meilleure interprétation justement de la réalité. C'est que nous étions à Lodjo, c'est en collectivité secteur de Walendupiti, où nous avons rencontré les leaders de l'URDPC. Et après un débat de 48 heures, nous avons pu signer, du moins ce groupe armé qui a signé, et nous aussi comme témoins nous avons signé un acte d'engagement unilatéral dans lequel il est stipulé la trêve unilatérale. Ils acceptent de cesser les hostilités, de ne plus s'attendre à aux forces armées, moi encore à la police. Et le deuxième point, c'était de la libre circulation, où ils acceptent c'est que la population va crédiblement à ses occupations. Le troisième et le quatrième point relèvent à un seul point, les DDR, c'est-à-dire les démobilisation, le désarmement et la réinsertion communautaire. Ils ont répondu spontanément. Nous n'avons vraiment pas eu beaucoup de difficultés à les convaincre. Et depuis là, ils étaient là, ils nous attendent pour que nous puissions arriver. Nous sommes arrivés, on a eu un débat de 48 heures, on a signé avec eux. Le problème que vous relevez, c'est vrai, on n'a pas de mécanismes d'accueil, on n'a pas de mécanismes d'accompagnement. Ils sont plus même de 3000, parce qu'il y a l'équipe de AID avec qui nous avons signé déjà à Zoumbé. Et ceux-là, ils ont donné une liste de plus ou moins 1250 personnes. Et s'il faut ajouter avec ce que nous avons vu là-bas, c'est immense. C'est un nombre considérable. D'où nous déplorons ce manque de moyens, ce manque de mécanismes et d'infrastructures d'accompagnement et d'hébergement pour ces combattants.
Tous ces miliciens qui sont prêts à déposer les armes, ils sont où en ce moment?
Pour le cas, par exemple, de Zoumbé, ils avaient commencé à se regrouper aussitôt après avoir signé l'acte d'engagement unilatéral. Sans que nous puissions leur demander, parce que pour nous, la consigne était que chaque groupe devait continuer à rester dans son bastion jusqu'à ce que des dispositions soient prises. Mais il y a eu un tel engouement que eux-mêmes ils n'ont pas pu contenir les groupes qui venaient d'ailleurs. Donc pour le moment, ils se sont eux-mêmes regroupés. Pour ce qui concerne les groupes de l'ALC et Codeco, du côté de Zoumbé et Ezequiel et Kambucho. Et il y a, pour ce qui concerne les groupes de l'IRDPC, qui d'ailleurs a revendiqué l'autorité sur tous les groupes de Codeco, les combattants se retrouvent à Lodjo, à Diarou, à Debou, dans plusieurs villages. Ils se retrouvent là, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Nous venons de tenir justement une réunion très capitale avec ce groupe, avec ses officiers et ses chefs politiques pour que nous puissions essayer de contenir ces mouvements spontanés de combattants qui perturbent quelque peu aussi l'ordre public, parce que quand ils viennent comme ça, on ne sait pas les maîtriser alors qu'ils ont signé cet acte unilatéral, ils pensent qu'ils ont droit. Alors, nous devons contenir ces mouvements et des dispositions avec les services publics sont en train d'être prises justement pour qu'il n'y ait pas de débordements. Et donc, pour le moment, ils sont casés d'ailleurs pour le village et que nous pensons que d'ici là, si le gouvernement donne le moyen de construire ces sites-là, et ils pourront justement rapidement revenir, être casés, être regroupés dans les sites de regroupement.
Mais nous apprenons qu'il y a certains miliciens de la Codeco qui ne reconnaissent pas cet acte d'engagement.
C'est un processus, madame. On ne peut pas dire que voilà, l'accord est parfait et que voilà, et tout le monde doit y adhérer nécessairement. Nous n'avons rencontré que 3-4 groupes jusque-là. On en a signé 2 avec 2 groupes, mais il en reste encore. L'approche que nous avions, c'était de privilégier les contacts avec tous les groupes. Si on pouvait avoir des autorités qui pouvaient se prévaloir d'une ascendance, d'un certain pouvoir sur tous les groupes, quoi de plus normal et de plus facile d'aller vers lui pour lui parler, signer avec lui, afin qu'eux-mêmes sensibilisent tous les groupes. Mais nous-mêmes, nous sommes rendus compte qu'il y en a de ces groupes-là qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'IRDPC. À eux aussi, nous avons réservé une visite, une discussion, un débat pour essayer de les convaincre d'adhérer à cette logique de déposer les armes pour la paix amicale. Donc, c'est normal à ces stades qu'il y ait des gens qui ne reconnaissent pas, Nous allons les voir, nous allons les raconter, nous allons essayer de les convaincre. Et je pense qu'au bout de ces rencontres avec eux, on pourrait tirer une conclusion.
Monsieur Eribi, je rappelle que vous êtes porte-parole de la délégation des anciens enseignants des gardes d'Ituri, envoyée par le chef de l'État pour sensibiliser les miliciens de la CODECO. Est-ce que dans les démarches que vous menez, les autorités provinciales de l'Ituri sont associées?
Oui, les autorités provinciales sont associés depuis le début du projet jusqu'à ce stade. Dans la délégation, d'abord, il y a son conseiller, le conseiller chargé de sécurité, Ngabo Pari, qui est présent avec nous, et nous avons les chargés de mission du gouverneur lui-même. Au-delà de ça, nous avons l'administrateur du territoire de Ndjougou, avec qui nous faisons tous ces cheminements, tous ces voyages. Et nous avons les représentants de tous les services spécialisés, l'ANER, la police et l'armée, le TD de la province, c'est-à-dire du secteur opérationnel, est avec nous. Donc, c'est une délégation venue de Kinshasa, mais dans l'approche, nous travaillons dans l'ensemble. Nous avons notre approche de discuter d'abord de ce que doit être la mission, de ce que doit être l'objet du jour, et c'est comme ça que nous travaillons, c'est comme ça que nous évoluons. Donc, le gouverneur, avec son gouvernement, est pertinemment, vraiment pertinemment, associé depuis le début jusqu'à ce stade.
Merci, Pitou Iribi. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de prendre Maître Lando Mafuta, qui est conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Il est le point focal du MNS en Ituri. Monsieur Lando Mafuta, vous venez de suivre le porte-parole de la délégation des anciens seigneurs des guerres de l'Ituri, envoyé par les chefs de l'État pour sensibiliser les militaires de la CODECO. Ils ont mené des démarches. Certains groupes qui sont dans l'Ituri ont signé un acte d'engagement pour déposer les armes. Ils sont prêts pour être démobilisés, mais il y a un problème de manque des structures d'accueil pour leur hébergement. Comment vous expliquez cette situation?
Merci beaucoup, madame. J'aimerais saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur la question, et vous saluer également. Je voulais en tout cas commencer par dire que nous saluons l'acte posé par ces groupes avec la reddition qu'ils ont opérée, et nous saluons également, n'est-ce pas, la volonté politique au plus haut niveau qui a consisté à donner l'impulsion à ce que finalement, nous arrivons là où nous sommes arrivés avec ces groupes-là. Madame, pour revenir à la question, nous estimons que le DDR, en soi, c'est un processus qui a plusieurs étapes qui devraient être respectées en tant que tel. Mais seulement, par rapport à cette question, à ces deux heures avec les amis des CODECO, nous sommes en possession d'une volonté politique qui pousse à ce que finalement les choses aillent vite. Je voulais vous informer que déjà depuis la date du 27 juillet dernier, le vice-premier ministre de l'Intérieur a convoqué le trois gouverneurs des provinces concernées par les questions de reddition. Il s'agit des gouverneurs de la province de l'Ituri, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur de la province du Sud Kivu, qui viennent justement pour discuter de la question d'aide communautaire à Kinshasa. C'est ça la grande solution à cette question. Je pense que finalement, en discutant de ces questions d'aide communautaire, finalement, ils seront dotés de tous les moyens possibles pour que finalement ce processus aille jusqu'à la fin et trouve, n'est-ce pas, une solution durable.
Est-ce que ce n'est pas par là qu'il fallait commencer avant d'envoyer cette délégation, aller sensibiliser les miliciens qui sont prêts aujourd'hui à déposer les armes et à être démobilisés?
Pour revenir à cette question, je voulais encore insister pour dire que vraiment nous saluons cet acte-là parce que finalement ils ont répondu positivement à l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à pouvoir, n'est-ce pas, s'inscrire dans la logique de la paix, dans la logique de la non-violence. Et c'est comme ça que le groupe des sensibilisateurs qui est parti par la volonté politique du chef de l'État. Et comme les mots le disent, c'était un groupe de sensibilisateurs. Mais voilà que les sensibilisateurs et nous autres, nous sommes surpris par la réponse donnée à cet appel-là. Donc c'est un acte qui nous fait réjouir. Nous y travaillons déjà. Nous allons nous mettre rapidement pour finalement donner des solutions adéquates à cette question.
Mais entre-temps, il y a la population qui craint que ces hommes armés ne se rabattent sur elles pour leur survie en se livrant au pillage et extorsion de leurs biens.
Oui, madame, je pense que les instructions ont été données pour que finalement cette population-là soit sécurisée. Et aussi au niveau des amis qui se sont rendus, je crois que nous les faisons croire qu'ils vont en tout cas jouer la bonne foi, parce que finalement le processus en soi n'a comme du répondant que la bonne foi. Donc nous ne pouvons pas admettre que finalement les gens qui se rendent eux-mêmes, qui répondent à un appel, qui puissent évidemment changer de posture pour insécuriser la population. Nous ne croyons pas à ça. D'ailleurs, nous saluons les gestes qu'ils ont posés et nous pensons que sur base de ces gestes-là, ils ne vont plus reprendre à commettre des actes pour insécuriser la population.
Plus le temps passe, est-ce que vous ne craignez pas que ces miliciens puissent se décourager et rentrer dans la brousse? Ils ont manifesté leur bonne foi de déposer les armes, de répondre positivement à l'appel du chef de l'État, mais en retour, il n'y a pas une prise en charge. Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils puissent retourner en brousse?
Madame, il ne faut pas déjà dire qu'il n'y a pas du répondant, qu'il n'y a pas prise en charge. Nous avons dit que tous on avait été agréablement surpris de la réponse donnée par ces groupes. Et nous y travaillons pour des solutions durables et adéquates. Donc nous sommes déjà en plein travail. Et voilà pourquoi nous disons qu'il ne faudrait pas que nos amis puissent se décourager, parce qu'il y a une solution. Mais lorsqu'un groupe se rend, madame, en réalité, il faudrait, c'est comme ça que moi j'ai parlé de DDR qui a plusieurs étapes. Il faudrait aussi, à un certain niveau, ramener, n'est-ce pas, les combattants à comprendre ce qu'il sera demain. Tout ça, ce sont des étapes qui passent pour que finalement, les DDR puissent se faire sans petits problèmes, sans difficulté. Et c'est comme ça que nous croyons à ce qu'ils ont fait, de la bonne foi qu'ils ont donné. Et nous travaillons rapidement pour une solution adéquate. Je vous ai parlé de la date du 27 de la convocation de ces groupes. Je crois que c'est déjà un signe positif de la part des autorités pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre de façon urgente à cette demande sur terrain. Merci.
Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, vous êtes actuellement expert en désarmement et en droit international humanitaire. Quelle lecture vous faites de cette situation?
D'abord, je salue mes co-débatteurs et après les avoir salués, je me rends compte que on est en train de tourner, de faire du surplace, parce que sur cette question, on a eu à en débattre. Qu'est-ce qui posait problème dans le passé? Ce qui posait problème, c'était la prise en charge, comme ça a toujours été le cas. Je vais, par exemple, me rendre encore une fois au Kivu pour tirer de l'expérience vécue là-bas. Vous vous rappellerez que en décembre, plus de 900 combattants se sont rendus à Goma. Ils provenaient du territoire de Masisi. Quand ils sont arrivés avec leurs armes et tout le matériel qu'ils avaient, c'était de bonne foi qu'ils ont rendu les armes dans le but d'intégrer la vie civile après la démobilisation. Malheureusement, Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a des combats qui se poursuivent dans le groupement où ils étaient en territoire de Massisi, toujours précisément au Famandu, parce que simplement ils ont été déçus 9 mois après qu'ils se soient rendus au sein, auprès des autorités congolaises. Vous avez le cas aussi de Beni, où des miliciens se sont rendus, plus de 1600. Ils arrivent avec la bonne foi toujours, dans le but de pouvoir soit intégrer la vie civile, soit subir un recyclage devant leur permettre de faire la vie militaire. Malheureusement, aujourd'hui, personne n'en parle, c'est resté lettre morte. Ils sont très nombreux, les cas sont légion. Le problème actuellement au pays, ce n'est pas actuellement, mais plutôt, le problème qui se pose dans ces pays, c'est lorsqu'on considère que si, à un certain niveau, par exemple, la plus haute autorité a pris une décision, il donne le coup d'envoi, ça s'arrête là, il transmet les instructions à ceux qui sont sur le terrain, alors que les services techniques qui sont censés assurer les relais de l'exécution de la mission que le chef donne devraient s'impliquer et on laisse la situation pourrir comme ça. Je ne voudrais pas décourager le jeune Jean de Codeco, parce que je les encourage d'ailleurs du fait d'avoir fait foi à l'appel qui leur avait été lancé pour stopper la violence, mais j'interpelle par contre les autorités congolaises de se prendre en charge, qu'elles se sentent responsables de la vie des concitoyens. Peu importe les conditions dans lesquelles la population se trouve, s'il n'y a pas de violence, je pense qu'elle peut se développer facilement elle-même. Alors, pour ce cas précis de Bounia, moi je pense qu'actuellement, le problème se pose en termes de prise en charge, bien sûr, mais le programme DDR à lui-même pose problème. Parce que le DDR ne veut pas dire seulement on le prononce comme ça, c'est un processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration. Ce désarmement-là, c'est fait par qui? Et si les sensibilisateurs sont sur place, les sensibilisateurs ne sont pas des acteurs principaux, ils facilitent, ce sont des facilitateurs. Où sont ceux qui vont désarmer ces gens-là? S'il faut les désarmer, ce sont des techniciens, des DDR qui arrivent. Où sont ceux qui vont les instruire pour les ramener, les resocialiser et les amener dans la vie civile? Ce sont des techniciens formés de DDR. Où sont ceux qui vont les réintégrer dans leur communauté? Parce qu'on parle des DDR communautaires. Est-ce qu'ils sont là? Alors, ce qui pose problème le plus souvent dans ces pays, c'est l'impréparation. On est allé vite en besogne, on pensait peut-être qu'on est en train d'essayer quelque chose qui ne va pas aboutir. Par la suite, la conséquence est là, maintenant on ne sait plus où est-ce qu'il faut commencer. Convoquer, j'ai entendu parler de cela, convoquer le gouverneur à Kinshasa, le problème ne se pose pas à Kinshasa, le problème se pose sur le terrain, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous avons prévu, qu'est-ce que nous allons faire demain ou après-demain, pour que ces gens ici ne retournent plus dans la brousse. Parce que le plus souvent, on accuse ces jeunes gens-là qu'ils sont difficiles, ils refusent, je ne sais comment, mais c'est la faute incombe le plus souvent, en tout cas, à l'autorité compétente qui n'agit pas et qui regarde comme ça après qu'il ait mis fin à leur vie de miliciens. Alors, à mon niveau, je pense que, comme il n'y a pas encore péril à la demeure, les responsables qui sont sur terrain devraient d'abord arrêter et réfléchir sur le prochain mécanisme à suivre, parce que le processus qu'il commence ne prend pas une semaine, 2 semaines ou 1 mois, ça peut prendre des années. Je me rappelle que nous sommes allés jusqu'à Kotakoli dans ce processus de DDR en 2015 avec l'actuel ministre de la Défense. Pendant qu'il y avait un problème déjà, les gens se sentaient abandonnés, qu'ils ont pris les armes dans les cas où ils étaient regroupés et commencé à créer de la terreur. Mais nous sommes allés à Kamina pour la même expérience. Alors, mais moi pourquoi? J'ai toujours situé ce
mais
problème.
Mais pourquoi, selon vous, Didier Bitaki, ce problème de prise en charge des miliciens pose toujours problème?
C'est de la mauvaise foi, et cette mauvaise foi est liée à l'impréparation, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, les autorités congolaises ne savent jamais ce qu'elles veulent. Elles vous disent que nous voulons mettre fin à la violence et il faut nous aider à mettre fin à l'existence des groupes armés. Mais dans l'entretemps, quand vous vous y mettez, vous allez vers elles vont vous dire que les priorités sont nombreuses, cela devient une question subsidiaire qui ne pourra plus faire objet de priorité. C'est ce qui pose problème, ce sont ces autorités-là qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles veulent quoi? La paix, oui. Alors engagez-vous pour la paix. La paix coûte cher que la guerre. Tout le monde devrait savoir cela. Alors lorsque vous voulez vous engager sur le chemin de la paix, il faut savoir en assumer les conséquences. Parce que la paix va vous exiger que vous puissiez prendre des gens en charge qui ont fait la guerre hier. La paix va vous obliger à vous rendre sur des terrains où il y a encore de l'insécurité ou des incidents, où tout peut arriver, dans des zones de risque. La paix va vous obliger
à abandonner une partie de vos devoirs ou de vos droits afin de restaurer cette paix et imposer votre autorité. Maintenant, les autorités ne définissent pas les objectifs auxquels elles veulent aboutir. C'est ce qui pose le plus souvent problème. Vous sortez les gens de la brousse, vous les amenez dans un centre, ils restent là et c'est fini, vous les abandonnez. Ce n'est pas ça, restaurer la paix.
Merci Didier Bitaki. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre ces réactions des auditeurs qui sont nombreux à nous appeler de partout. Pichu Iribi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de l'Itouri.
C'est Dadi Boudjou. Je suis à la barrière en territoire de Djougou. À 8 km de la barrière ici, les tueurs de la Codeco sont en train de s'y retrouver. Donc ce qui vient de se passer, c'est un grand coup de théâtre qui ne dit pas son nom. L'axe barrière Nice, Bambou, Kilo, Mungwalu est impraticable. C'est 4 août aujourd'hui même, car il loge des tueurs de Codeco qui jurent ne pas reconnaître ces accords. Ils décapitent tout le monde. Bounia est l'ombre d'elle-même. Elle est enclavée 40 km sur tous les axes. Donc l'insécurité est encore là. Nous vivons encore l'insécurité. Alors, tout ce qui vient de se passer, il n'y a que ceux qui sont les autochtones, ceux qui vivent réellement ces réalités sur terre, qui peuvent vous faire croire que ce qui vient de se signer n'engage que ceux-là. Et sur terrain, c'est autre chose.
Monsieur Iribi, comment vous réagissez à ce que vient de dire Isaac qui nous appelle depuis Djougou?
Oui, merci pour l'intervention de mon ami de Litouri, mon frère d'ailleurs. Et de tout d'abord, je salue d'abord les interventions de mes collaborateurs que je salue aussi. Et en ce qui concerne l'auditeur, le pessimisme qui me ronge est légitime. C'est que nous sommes au début du processus. Nous sommes au début du processus. Nous sommes passés par là où nous sommes passés par Pimbo. Il y a évidemment un groupe qui est encore très réticent de ce côté là-bas, mais nous avons prévu de repasser encore par là pour avoir des contacts directs avec les acteurs de ce côté-là. Nous déplorons justement les tueries qui se sont passées dans la région où il est et la sécurité qui s'y passe. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une solution miracle. Nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Ce sont des combattants qui étaient retranchés, lourdement armés. Il faut les convaincre pour sortir de ces modes de vie dans lesquels ils étaient empêtrés, pour changer de mode de vie, pour retrouver justement un mode de vie normal. C'est un processus, ça connaîtra les hauts et les bas. J'aimerais bien que mon ami puisse comprendre que la tâche n'est pas facile, et pour nous, et pour ceux-là qui soutiendront justement ce processus. Nous avons la même peine, nous partageons la même peine que lui, mais je pense vraiment que dès que nous allons rencontrer ces assaillants ou soit ces combattants du côté où il est, alors il pourra donner justement un jugement par rapport à cela. Mais pour le moment, nous continuons à espérer que les groupes de ceux qui se retrouvent là nous attendent et que nous allons les rencontrer pour leur parler.
Alors, Monsieur Iribi, c'est quoi votre mission principale?
Notre mission se résume à être des experts négociateurs. C'est comme ça que nous avons été nommés et titrés pour effectuer cette mission. C'est-à-dire, c'est de sensibiliser les groupes armés, Codeco, mais aussi d'autres dans la région, prendre langue avec eux, leur transmettre le message du chef de l'État et ensuite étudier ensemble avec ce qu'il y a à faire. Nous avons droit de regard sur la suite aussi des événements. Parce que maintenant, il se pose des problèmes de prise en charge. Évidemment, comme Didier, le co-débatteur Didier Bitak l'a dit, il ne suffit pas de vouloir la paix, mais il faut savoir souffrir aussi pour la paix. La paix, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, ça coûte tout. Il faut investir dans la paix. Maintenant, il est question de la prise en charge. L'État devrait déjà prendre des dispositions de telle enseigne que ne puisse pas connaître ces problèmes. La plainte, ou soit la crainte de la population, elle est légitime. Mais vous les casez quelque part,
peuvent donner pas à manger, mais ils se retournent contre la population. Mais nous, nous serons là pour regarder parce que nous ne faisons pas une mission pour laquelle nous avons reçu la confiance du commandant suprême, du chef de l'État, que nous puissions le laisser comme ça pour que, enfin, nous puissions récolter de la tempête. Ça, nous serons. Tout ça, nous serons regardants par rapport à la suite du programme.
Maître Lando Bafouta, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mahagi, toujours dans la province de l'Ituri.
Maître Mokilimungunuki David, à partir de Mahagi, en province de l'Ituri. Je pense que par rapport à cette situation sécuritaire de l'Ituri, le gouvernement doit mettre toutes les batteries en marche à se montrer une fois responsable. Ainsi, il y a trois choses à faire. Les traques des ennemis de la paix en Ituri, par les éléments des FARDC doivent continuer, car ce ne sont pas tous les miliciens qui ont finalement jusque-là accepté le processus de la paix. Deuxièmement, le gouvernement doit accélérer avec le précatonnement et l'encadrement rapide de ceux qui ont adhéré au processus de paix. Troisièmement, Kinshasa devra appuyer le gouvernement provincial de l'Ituri, dont les moyens sont absorbés par les crises liées à la sécurité, par un fonds spécial pour la mise en œuvre de son programme de développement.
Maître Lando Mafouta, quelques pistes de solutions que le gouvernement devrait mettre en place pour accélérer le programme de démobilisation des groupes armés. Ce sont des pistes que Mokili, qui nous écrit depuis Mahagi, nous propose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, madame. Je salue l'intervenant Mokili. Je prends tout ce qu'il dit comme conseil. Je le remercie pour ses conseils, mais il doit se rassurer que le gouvernement y travaille pour une solution durable par rapport à ça. Mais j'ai toujours aimé assister, participer dans les débats avec Monsieur Taki, qui, comme vous l'avez présenté, l'ancien des groupes armés démobilisés, il a souvent donné des conseils, des bons conseils, et puis. Qui nous servent parfois pour, n'est-ce pas, continuer le processus. Alors, je pense qu'il a souligné la question de prise en charge. Il dit que souvent dans les désarmements, il s'est posé des problèmes de prise en charge. C'est comme ça que moi, j'avais souligné que les désarmements, les DDR en soi, c'était un processus. En insistant sur la convocation de ces gouverneurs, j'ai pas peut-être souligné un autre aspect. Un autre aspect, c'est quoi? Parce que pas seulement ces seuls gouverneurs qui viennent pour parler de ça. On fera un forum avec le ministère sectoriel et, n'est-ce pas, des structures étatiques responsables qui sont chargées des questions de DDR. Donc, c'est-à-dire, c'est un format qui se fera pour que finalement ça donne des solutions durables. Et par rapport au porte-parole de l'équipe qui est partie, vous savez que lui-même souligne que, les intervenants des uns des autres soulignent la peur qu'ils ont par rapport à l'activisme de ces mêmes groupes sur le terrain. C'est tout ça des questions de processus de DDR. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir, n'est-ce pas, il faudrait avoir les cœurs nets sur le nombre exact, il faudrait avoir les cœurs nets sur, n'est-ce pas, les dispositions à prendre pour que finalement les processus puissent réussir, qu'on ne connaisse pas de l'échec par rapport à ces processus. Voilà, tout cela ne va pas se discuter par rapport à. Au gouverneur des provinces qui, généralement, ne dispose pas de la technicité de service de l'UPNDDR, par exemple. Donc c'est comme ça qu'il faudrait que cela soit discuté dans un format un peu élargi et que la solution soit rapidement trouvée. Rassurez-vous que le gouvernement a décidé encore, finalement, les amis qui répondent à la paix puissent trouver solution. Le gouvernement ne peut pas négliger cela. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement, il travaille pour donner une solution rapidement.
Il n'y a pas que ce groupe Codeco qui se plaint. Au Nord Kivu, on a connu des groupes aussi comme ça qui se sont rendus, mais malheureusement abandonnés dans les camps des cantonnements par le gouvernement et du coup, ils ont décidé de rentrer en brousse.
Oui, madame, le problème des groupes armés qui se rendent, c'est un problème complexe. Parce que finalement, lorsque un groupe se rend sans la bonne foi, il peut accuser le gouvernement de tout. Alors qu'en réalité, parfois, ces groupes-là n'avaient pas la volonté de pouvoir se rendre ou soit faisaient les shows pour, n'est-ce pas, transmettre les messages. Mais, quand cela ne tient, madame, le gouvernement conscientise, sensibilise et continue à tendre la main à ces groupes de pouvoir se rendre pour trouver solution adéquate et solution définitive.
Merci, donc, Maître Alando. Merci, on va vous redonner la parole. Didier Bitetki, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Likasi dans la province du Haut-Katanga.
Lévi Kilungulungu de Likasi dans le Haut-Katanga. La démarche des démobilisations est à saluer parce qu'elle vise à stabiliser cette zone longtemps minée par des guerres interminables. Mais si aujourd'hui il y a à déplorer dans la concrétisation des démarches, c'est parce que nos autorités ont du mal à tenir leurs promesses, essentiellement celles des campagnes électorales. Toutes ces milices et autres groupes armés montrent que l'autorité de l'État ne s'est pas encore installée sur le territoire national. Les exemples sont très éloquents là-dessus. Rien qu'à voir le nombre des groupes armés nationaux et étrangers qui ont fait de la RDC leur champ de bataille. Pour terminer cette situation, il faut que le président de la République prenne à bras le corps la démarche des démobilisations, parce que quand l'opération a été amorcée, c'était sur base d'un programme bien financé, sinon on ne se serait pas lancé dans pareille aventure. Que le chef de l'État, en tant que garant de la nation et commandant des forces armées congolaises, s'implique personnellement afin de mettre fin à cette situation qui risque d'aggraver davantage l'état sécuritaire de la région et des populations.
Didier Bitetki, que peut faire le gouvernement pour accélérer le programme de démobilisation des groupes armés?
D'abord, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure. Cette intervention, en tout cas, je la fais mienne, je me l'approprie. De deux, ce que le gouvernement doit faire dans un premier temps, comme c'est un programme du chef de l'État qu'il lance particulièrement pour la sécurisation de nos compatriotes de l'Ituri, je pense que lui-même devrait d'abord procéder par la révisitation des précédentes décisions prises dans le cadre de DDR. Vous savez que ce processus de DDR est tellement lourd que le mécanisme ne permet pas d'effectuer des travaux ou d'atteindre l'objectif fixé pour cette mission-là. Vous avez une superstructure. On ne sait pas qui prend la décision, qui engage quoi. C'est tout le monde qui s'y mêle. Vous avez autant de services, des ministères impliqués, l'armée elle-même impliquée, vous avez la police. Sans qu'on aura assoupli ce mécanisme pour qu'il soit réellement un programme, un processus technique, donc un programme technique du gouvernement chargé, soit du désarmement, de la réinsertion et de la restauration de l'autorité de l'État, dans sa configuration actuelle, on tournera à rond et on ira de forum en forum. On n'obtiendra pas une solution pour cette question de prise en charge des groupes armés une fois que les combattants se seraient rendus. En deuxième lieu, il ne suffit pas seulement d'encourager le chef de l'État ou les membres impliqués, dans les personnalités impliquées dans la mise en œuvre de ce processus. Non, il faut par contre le pousser à agir plus, à faire plus par rapport à ce que le peuple attend. Parce que les groupes armés, la conséquence, c'est une expérience que je connais beaucoup. La conséquence, c'est que s'il n'y a pas d'attraction, le reste des combattants créent de nouveaux groupes. Ils se recyclent et ils deviennent un autre groupe. Parce que ceux qui sont partis sont soit élevés ou n'ont pas trouvé leur compte. Que ce soit dans la vie civile comme dans la vie militaire. Donc, en conséquence, il faut créer des moyens d'attraction de ces combattants-là qui soient encore plus lucratifs que le moyen qu'ils utilisent dans la brousse pour survivre. Donc, mettre des projets intégrateurs en place qui doivent les occuper au lieu qu'on récupère leurs armes, on les désarme et le lendemain ils retournent, on les renvoie chez eux pour vivoter. Alors qu'ils avaient qu'un seul moyen de survie, les armes qu'ils utilisaient, là ce serait perpétuer la violence. Donc au fur et à mesure que les dirigeants sont impliqués dans ce processus de désarmement et de stabilisation du pays, il faudra au même moment que des projets intégrateurs, et on en connaît toute une liste qui peut les occuper, devant permettre à ce que chacun prenne
se prenne en charge dans sa vie sans qu'il puisse nuire à l'autre. Mais tant qu'on n'aura pas réfléchi à cela, même si on arrivait à amener toute l'armée là-bas ou peut-être toutes les autorités de la République, la suite sera la même parce qu'on en a expérimenté. La même chose presque dans toutes les provinces du pays. Le résultat était le même. Aujourd'hui, comme l'a dit l'intervenant du Katanga, la suite aujourd'hui est que les groupes se multiplient au lieu qu'ils se réduisent. Tout simplement parce qu'il y a également ce problème-là de survie de ces jeunes gens qui sont des œuvrés et qui n'ont rien à faire, pour lesquels moi je demande que l'autorité en tout cas s'y penche et qu'il accorde une attention particulière à la prise en charge de la jeunesse et à leur encadrement. Voilà ce qu'il faut en plus d'autres solutions qu'il faut évoquer.
Merci Didier Bitaki. Pichu Iribi, comment accélérer le programme de démobilisation de ces groupes armés? Qu'est-ce que vous proposez? Rapidement, ça sera aussi votre conclusion.
En bref, c'est que depuis le début de ces processus, le gouvernement provincial s'est beaucoup investi. C'est le deuxième cantonnement d'ailleurs. Le tout premier était supporté financièrement par le gouvernement provincial. J'aimerais bien que l'appui financier soit conséquent, c'est-à-dire à travers l'appui à certains projets. Il y a deux projets que je peux demander à ce que le gouvernement central puisse appuyer. C'est le projet concernant la brigade agricole. Cette brigade agricole est chapeautée par le ministre provincial de l'agriculture et c'est un vaste projet de récupération de main d'œuvre que peut constituer les anciens combattants. Le deuxième projet, c'est le projet de construction des routes. Ce projet aussi, c'est un projet du gouvernement provincial. Au début de l'année, nous avions réfléchi sur la simultanéité des actions. Nous avions senti à l'époque déjà qu'il y aura un engouement. Nous avons proposé que les services puissent être là pour accompagner. Mais malheureusement, ils ont tardé, faute de moyens. Aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. Il faudrait que le gouvernement ait ses responsabilités pour soutenir financièrement justement tous les processus pour ne pas récolter du temps.
On a un souci avec votre ligne téléphonique. Merci, Pichu Iribi, porte-parole de la délégation des anciens seigneurs des guerres de l'Ituri, envoyé par le chef de l'État pour sensibiliser les miliciens de la CODECO, Maître Lando Mafuta, conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC et point focal du MNS en Ituri. Votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. Je voulais dire que à ce stade, le DDR en soi a consisté à multiples programmes, multiples actions sur le terrain. Voilà pourquoi le chef de l'État a instruit que finalement un programme crédible de désarmement et de démobilisation intégrée soit adapté à la dynamique actuelle et soit, n'est-ce pas, mis sur pied. Qui est en phase de terminal, le programme conduira à poursuivre à la nomination d'un coordonnateur principal qui s'occupera de ce programme TDR en général en RDC. Donc c'est de l'espoir, c'est de la volonté politique qui est donnée. Voilà pourquoi je salue le dévouement du coordonnateur national du MNS, M. Claude Ibalanki, qui ne cesse de pouvoir, n'est-ce pas, travailler sur les questions de la paix pour donner une réponse consistante. Je pense que la question TDR CODECO va trouver une solution rapidement. Dans les jours à venir, on en parlera plus et puis ça sera passé pour aller dans une autre étape et voir un autre groupe pour rapidement réinsérer, faire les DDR, passer les DDR en général. Merci.
Merci, Maître Lando. Didier Bitaki, en 30 secondes, votre conclusion.
Ma conclusion est que j'en appelle les acteurs, tous les acteurs en présence, à faire beaucoup plus de volonté et preuve de responsabilité. On n'a plus besoin d'assister à ce qu'on a eu à vivre dans le passé quand la violence battait son plein à Ituri. Je propose que le chef de l'État s'engage lui-même avec les structures compétentes pour en arriver à bout de toute l'instabilité, notamment dans toute la partie est de la République et non pas seulement à Ituri, parce que ça n'est trop et il faudra qu'on y mette fait une fois pour toutes.
Merci Didier Bitaki. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. préparé. Guy Maté de la Madimba sous la supervision d'Axel Goncho. Merci à Polydor Basunga qui est à la prise de son, présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.